qui est authentiquement né de nouveau ici, qui a accepté un jour Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Voilà, à partir de là, vous avez beaucoup de valeur pour Dieu, vous savez. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Dans tout l'univers, le Seigneur a choisi de faire sa demeure en vous. Vous vous rendez compte à quel point vous avez de la valeur? C'est pourquoi nous avons un message à travers nos voyages, qui est un message sur la destinée, sur l'identité, sur le miracle aussi, parce que nous croyons que ça ne suffit pas d'entendre des belles paroles, il faut aussi qu'il se produise des miracles dans notre vie. Nous croyons que le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé, non pas d'être accusé, pour qu'il puisse se fortifier dans son identité, puis éventuellement que tout ce qui aurait déraillé à un moment donné ou à un autre, et ça nous arrive tous dans notre vie chrétienne, de leur destinée, puisse se remettre sur les rails de leur destinée. Parce qu'avec le Seigneur, eh bien, il n'est jamais trop tard. Vous savez que Dieu est le Dieu de la deuxième chance, mais aussi de la troisième chance, et de la quatrième chance, et de la cinquième chance, et heureusement pour chacun de nous. Vous êtes d'accord? Alors ce soir, mon message, il s'appelle « Surmonter et transformer ses déceptions ». Qui n'a jamais eu de déception ici? Nous prierons pour la dame là-bas. Plutôt, nous lui demanderons de prier pour nous. Il y a tant de raisons d'être déçu dans ce monde et dans l'Église que si l'on n'apprend pas à gérer nos déceptions, on va se retrouver à un moment donné à crouler sous leur poids. On peut dire que chaque déception, c'est comme une flèche de déception, vous savez, qui nous atteint. Qu'est-ce que c'est qu'une flèche de déception? C'est quelque chose qui n'a pas tourné comme on voulait ou on pensait que ça devait tourner. Vous connaissez ces situations? Vous pensiez ben, même que Dieu vous toucherait. Vous pensiez que l'année prochaine, j'aurais réussi telle et telle chose. Et lorsque la fin de l'année arrive, vous en êtes au même point. Parfois, même des problèmes, en plus, sont accumulés. C'est un espoir différé. Vous savez, il y a un proverbe, proverbe 13 à 12, qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Quand vous attendez quelque chose, et ça n'en finit pas de ne pas arriver. Est-ce qu'il y a des spécialistes ici? Vous êtes tellement tous spirituels que vous allez avoir besoin de prier pour moi. Des spécialistes en flèches de déception. Parce que ce n'est pas une déception qui va nous briser, c'est pas une déception par-ci par-là, c'est l'accumulation de plusieurs déceptions. Spécialement lorsqu'on passe par une période où on est déçu par une chose après une autre. Vous connaissez ces périodes? Vous avez fini avec une chose, vous commencez avec une autre. La sœur comprend tout à fait de quoi je parle là. La manière dont elle me regarde, elle dit... Mais si l'on note pas régulièrement ces flèches de notre corps, eh bien on va se retrouver un jour couvert de blessures qui vont nous ôter du chemin de notre destinée. Et il y a une forme de déception qui nous touche particulièrement, peut-être dont on n'ose pas parler dans les milieux chrétiens. En tant qu'enfant de Dieu, c'est lorsque les choses qui étaient ou dont on pensait qu'elles étaient, la volonté de Dieu ne marche pas néanmoins. Parce qu'il y a... Il y a alors une confusion profonde qui vient se greffer sur notre déception, confusion qui est agrémentée par un ensemble de questions tout à fait légitimes. Si c'était le plan de Dieu, pourquoi, permettez-moi l'expression, ça a foiré? Et si le plan de Dieu a foiré, deuxième question qui arrive là, tout est fichu maintenant, qu'est-ce qui me reste là-devant? Qu'est-ce qui me reste à faire? Le diable, il nous accable dans ces instants de pensées qui ont pour but de nous ôter toutefois à une espérance et un avenir glorieux. Mais notre message, c'est que Dieu, quelle que soit notre situation, a pour chacun de nous un avenir et une espérance. Et croyez-moi, lorsque Dieu a donné de la part du prophète Jérémie cette parole au peuple hébreu, ce peuple avait tout perdu. Il avait été déporté à Babylone, il avait perdu sa terre, des familles avaient été brisées, amenées en esclavage... Mais Dieu ne leur a pas dit, ainsi parle l'Éternel, vous êtes vraiment dans de sales draps, je ne sais pas comment je vais vous sortir de là. Donc du sein de cette détresse, du sein de cette situation où il n'y avait humainement plus d'espoir, Dieu parle encore des paroles positives, amen. Moi j'en ai assez des chrétiens qui ont toujours une parole négative à nous annoncer quand on les rencontre. La Bible dit que nous sommes appelés à annoncer une bonne nouvelle chacun. Combien ça fait du bien lorsque vous êtes éprouvé là de rencontrer quelqu'un qui n'essaye pas de vous montrer à quel point il est spirituel, mais qui a la bonne parole au bon moment pour vous faire du bien. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Même s'il ne parle pas par 10 versets bibliques à la minute. Parce que le diable, il vient là, il nous accable de toutes ces paroles. Tu as gâché ta chance. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsque peut-être la personne avec qui on pensait faire sa vie est partie dans la direction opposée, le nombre de couples chrétiens, de familles qui sont brisées, que nous pouvons rencontrer à travers nos voyages. Qu'est-ce qu'il reste à faire lorsqu'on a déménagé peut-être pour entrer dans le plan de Dieu et qu'au lieu de voir ce plan s'accomplir, tout s'est cassé la figure. Comme un de mes amis l'a vécu. Qu'est-ce qu'il reste à faire quand notre famille a explosé alors qu'on était chrétien justement? Et peut-être même qu'on servait Dieu, on pensait qu'étant chrétien, ce genre d'option n'interviendrait pas. Et dans la théorie, oui, mais vous avez vu qu'il y a un grand fossé entre la théorie et la pratique. Qu'est-ce qu'il reste à faire quand la guérison attendue peut-être n'est pas survenue, peut-être même c'est la mort qui est survenue. La mort d'un proche, la mort d'un mari, d'un enfant. Alors qu'on attendait de voir Dieu agir. Lorsque l'église, l'œuvre, l'équipe sur lesquelles on avait fondé toute une vision, paf, explose. Qu'est-ce qui reste à faire lorsque les gens sur lesquels on comptait nous ont quittés ou ne veulent plus continuer dans la vision? Vous savez, dans nombre de ces situations, on se retrouve momentanément sans force. Comme si on avait pris un coup de batte de baseball. Vous connaissez cet état-là? Où vous arrivez à l'église le dimanche matin et vous avez pris un coup de batte de baseball sur la tête, vous savez? Et les gens vous disent, ça va. Alors, tu mets en route le CD automatique. Oui, ça va, ça va, ça va. Et ça va pas!
Avec le Seigneur.
En réalité, oui, le Seigneur est vivant. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc lorsque ce qui paraissait être le plan divin a foiré. Est-ce qu'on doit se rabattre, ma question ce soir, dans un plan médiocre, un plan secondaire pour le restant de notre vie? C'est ce que nous souffle le diable. Ah, tu as perdu ton joker. Donc là, il ne reste plus que le plan numéro 2, le plan numéro 3 et le plan numéro 10 qui sont loin d'être aussi bons que le plan numéro 1. Donc tu dois rayer pour le restant de ta vie de pouvoir vivre dans le plan parfait, le plan numéro un. Vous connaissez cette voix du diable ou il n'y a que moi qui l'entends? Hein? Est-ce qu'il est gentil, le diable, à Angers? Parce qu'à Toulon, il est méchant. Sinon, je déménage. Le mien, il est méchant. Vicieux. Menteur. C'est pourquoi Dieu veut nous instruire par sa parole pour que nous puissions nous dégager des pièges du mensonge dans lesquels il nous tient souvent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est toujours lié par quelque chose qu'on croit de travers. On est toujours lié par un mensonge puisque Jésus a déclaré que c'est la vérité qui nous affranchit. Donc quand on est lié dans un domaine de notre vie, la question à se poser, quel est le mensonge que je crois encore? Intéressant. Quel est le mensonge que je crois encore? Donc il va falloir sortir dans ces situations, dans ces périodes, du découragement et de la souffrance, parce qu'il y a une souffrance. Mais pour cela, il faut d'abord sortir de la confusion. Et pour sortir de la confusion, il nous faut une réponse biblique aux questions que se pose notre cœur. Parce qu'une réponse humaine, elle ne suffit pas. Parce qu'il vient toujours ces voix, si c'était le plan de Dieu, pourquoi? Donc ça a foiré, ça c'est normal de se poser ces questions. Et la question, quelque chose qui était dans le plan de Dieu, est-ce que ça peut foirer? Beaucoup pensent que si quelque chose ne marche pas, c'est la preuve que ce n'était pas le plan de Dieu. Combien de personnes vont vous dire, ah si ça avait été le plan de Dieu, ça aurait marché? Pas si sûr les amis. Si on se penche sur ce que la Bible nous enseigne, on se rend compte qu'il y a des plans de Dieu qui ont périclité. À commencer par le méga plan de Dieu, et c'est tellement gros qu'on peut passer à côté. Vous savez, il y a des histoires tellement évidente que parfois on n'y pense pas. C'est lorsque Dieu a placé Adam et Ève sur cette terre. Dites donc, ça n'a pas très bien démarré. Donc on peut dire que le plan de Dieu a périclité, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, Dieu, il était dans le plan de Dieu. Ou bien il ne s'est pas entendu. Il a choisi une mauvaise direction. Vous croyez que Dieu était dans le plan de Dieu en plaçant Adam et Ève sur la terre? C'était pas son plan parfait qu'Adam chute. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois les gens disent, oui, mais tout est dans le plan de Dieu, il a tout prévu à l'avance. Il a fait en sorte que ça arrive même. Non, Dieu peut transformer n'importe quelle situation, nous allons y revenir, mais ça ne veut pas dire que ce qui est arrivé était selon son plan. La personne est morte du cancer, Dieu peut le faire tourner à sa gloire, mais ça ne veut rien dire que c'était Dieu qui voulait que cette personne meure du cancer. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Oui, donc une chose qui est dans le plan de Dieu peut ne pas marcher. Que tous les plans de Dieu aient toujours réussi du premier coup à quelqu'un, ça n'existe pas. Et je ne dis pas cela pour dire qu'on ne doit pas tout faire pour permettre au plan de Dieu de s'accomplir. On doit tout faire pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie, d'accord? Libérer notre foi, la mettre en action, je suis d'accord. Mais nous devons relativiser, parce que nous passons tous par des périodes où on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas toujours de suite, on comprend par la suite, ça ne marche pas. Moi, je crois que l'Évangile, il marche. Mais il m'arrive de me retrouver dans des situations où je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas. Et si je me laisse coincer par le pourquoi, cette question qui émerge de notre cœur et qui parfois demande réponse immédiate, c'est un piège de demander une réponse immédiate. Parce que si on ne la reçoit pas, on va rester coincé pendant des mois. Alors il vaut mieux se relever quand même, même si on ne comprend pas, et dans le temps et dans la marche, on comprendra. Aujourd'hui, je comprends des choses qui me sont arrivées il y a 5 ans. Hello? Mais si j'étais resté là où j'en étais il y a 5 ans, j'aurais pas beaucoup évolué. Donc ça, c'est une parole pour plusieurs d'entre vous, je suis sûr, ce soir. Même si tu n'as pas toutes les réponses de suite aux questions que tu te poses, et il est légitime de se poser ces questions, ne fais pas le piège du diable qui veut te garder au sol. La Bible dit 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. Donc relève-toi, et dans la marche que tu vas reprendre, à un moment donné, Dieu t'expliquera. Parce que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. C'est pas quand on est excité, c'est pas quand on est déçu, abattu et parfois amer, qu'on entend la voix de Dieu clairement. C'est dans le calme et la confiance. Donc notre priorité, c'est pas de tout comprendre, c'est de retrouver notre calme et notre confiance. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, j'espère que tu ne regrettes pas d'être venu ce soir. Oui, dans les conséquences de la chute d'Adam et Ève, ce plan de Dieu qui a périclité, ont été catastrophiques. La mort spirituelle et la mort physique pour l'homme, qui était destiné au départ à ne jamais mourir, la destruction et la malédiction de la terre. Vous savez, Adam, il avait été établi par Dieu pour régner sur la terre. Et lorsqu'il est tombé dans la tentation du diable, il a donné son droit au diable. C'est pourquoi le diable peut se présenter devant Jésus bien plus tard en lui disant « Tous ces royaumes, je peux te les donner parce qu'ils m'ont été donnés. » Ils ne lui ont pas été donnés par Dieu, ils lui ont été donnés par Adam. Le diable a un droit légal, la terre continue à appartenir à Dieu. La Bible nous dit que la terre appartient à Dieu. Mais le gouvernement de cette terre, pour l'instant, appartient au diable. Il est passé des mains d'Adam dans les mains du diable. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. Pour récupérer ce qui nous a été volé.
Amen.
Alléluia, ma sœur. Nous sommes les envahisseurs. Il faut avoir cet état d'esprit d'envahisseur. Il faut cesser d'être envahi par l'adversité. Il faut envahir le royaume de Satan. Jacques le dit, le monde entier sous la puissance de Satan. C'est pour ça qu'il y a des malheurs. C'est pourquoi des enfants se font écraser par des voitures. Ce n'est pas parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je ne supporte pas entendre des chrétiens qui nous disent tout ce qui arrive, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tu sais, ta barbe, elle va pousser si tu ne te rases pas. Hein? Alors tu la laisses pousser, tu dis, bon, c'est parce que c'est la volonté de Dieu qu'elle pousse. Hein? Tu fais rien. Alors, plus dramatique que la chute d'Adam et Ève, tu meurs. Cela doit donc déjà aider toute personne confrontée ce soir à un sentiment peut-être d'échec terrible. Parce que le diable essaye de lier beaucoup d'enfants de Dieu par la culpabilité. Avec lui, on n'est jamais assez bien. On n'a jamais assez bien fait. Ah, Dieu t'a abandonné. Si tu avais été à la hauteur, si tu avais assez prié, si tu avais été assez digne, on n'est jamais assez. Mais cet exemple est la démonstration irréfutable que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas toujours obligatoirement, sous prétexte qu'ils sont des plans de Dieu. Maintenant, le deuxième enseignement bien plus riche, après que j'ai bu un verre d'eau, ne partez pas. Très bon. Le deuxième enseignement, encore bien plus riche, c'est que Dieu peut retourner n'importe quelle situation. Par retourner une situation, je ne veux pas dire juste l'arranger. Juste la réparer, juste limiter les dégâts. Non, non. Je veux dire que Dieu peut nous propulser, et on va y revenir, par le biais même de notre erreur, par le biais même du problème, de la déception, de la souffrance, dans quelque chose, non pas dans le plan numéro 4 ou 5 qui est inférieur au plan numéro 1, mais dans quelque chose de mieux que ce qu'on a raté ou perdu. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est d'accord ? Parce que dire que d'un coup, ça y est, on a perdu la volonté parfaite de Dieu, donc c'est fini, ça limite Dieu déjà. Là aussi, c'est difficile à croire, peut-être face à la déception et la souffrance actuelle à travers laquelle tu passes. Mais c'est ce que nous enseigne l'Écriture. Et c'est ce que nous enseigne le plan divin de salut en Jésus-Christ. C'est la conséquence de la mise en route d'une loi encore plus grande que la loi de la réussite, qui a permis de rattraper ce plan foireux. Adam et Ève qui ont chuté, le diable qui a envahi la terre, et qui en est devenu le nouveau régent, c'est une loi supérieure à la loi de la réussite, c'est la loi de la grâce. Amen. Face au dérapage d'Adam et Ève, Dieu a libéré un autre plan, une autre loi, un plan de rachat en Jésus-Christ qui devait amener l'humanité dans une dimension supérieure à celle perdue par la chute. Romains 5, 20 nous dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » J'en ai assez de ces chrétiens qui parlent que du péché. Il faut en parler, mais juste le temps qu'il faut. Ils glorifient le péché. Oui, mais glorifions la grâce. Parce que là où le péché a abondé, c'est vrai, on ne nie pas qu'il a abondé, la grâce a surabondé. Donc chaque fois qu'on parle du péché, on devrait parler 10 fois plus de la grâce. Dans les chrétiens obsédés par le péché, ont un problème vis-à-vis de la grâce. Et ils ne règlent jamais leur problème en glorifiant le péché. Ils lui donnent plus de force. C'est comme quand vous parlez toujours des démons, ça devient une loi spirituelle. À force d'en parler tout le temps, vous les attirez plus que ce que vous les chassez. Et on connaît tous de ces chasseurs de démons professionnels qui ont toujours des problèmes à n'en plus finir. Plus ils en chassent, plus ils en ont. Ils veulent délivrer tout le monde, mais c'est eux qui ont besoin de délivrance. Mais il n'y en a pas à Angers, mais à Toulon, il y en a. Alors, si Dieu a rattrapé le plan de la création par le plan du salut, il peut nous permettre de rattraper nos plans avortés. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas été recréés en Adam, parce que l'esprit d'Adam est mort. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. On est tous d'accord? Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc c'est un rang supérieur à Adam. Vous avez vu ce que Dieu il a fait? Le diable, il doit râler quand même. Hein, mettez-vous à sa place. Il fait tout pour que le plan de Dieu périclite. Et en fin de compte, l'homme qui a chuté se retrouve à avoir un statut supérieur. Alors ce statut supérieur, vous ne le sentez pas toujours parce que nous sommes encore dans nos corps de chair, vous savez. Mais la Bible nous dit qu'un jour, nous revêtirons un corps qui est semblable au corps de sa gloire. Vous ne voyez pas le vrai corps de païen, là. Je vous assure, je suis beaucoup mieux que ça à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ne jugez pas les gens sur l'extérieur. Nous sommes encore dans des vases de terre, dit l'apôtre Paul. La gloire de Dieu dans des vases de terre. Mais un jour, ça sera la gloire de Dieu dans des corps glorieux. Amen. Amen. Mais ce temps n'est pas encore venu. Même les scientifiques nous disent qu'on n'utilise qu'un dixième. Certains vont même à dire jusqu'un centième des possibilités de notre cerveau. Nous sommes des infirmes tant que nous sommes sur cette terre. Mais ça n'en durera pas toujours. Notre esprit a été recréé, alléluia, et notre esprit, il est parfait. Mais voilà, nous sommes encore dans ce corps de chair qui un jour sera changé, semblable au corps de sa gloire. Lorsque Jésus est ressuscité, les disciples étaient assemblés dans un même lieu et il est passé à travers les murs. Amen. Essayez de passer à travers le mur, là, vous allez voir ce que ça donne. Risquez d'abord, on va vous amener aux urgences après, hein. Dans ce temps n'est pas venu, mais nous savons qu'il viendra parce que nous avons une espérance glorieuse. Alléluia. Mais déjà, la gloire de Dieu demeure dans ces vases de terre que nous sommes. Tu es une merveilleuse créature. Peut-être que tu ne le vois pas et tu ne le sens pas toujours à cause de ce corps qui te tire toujours vers l'arrière. Mais pour Dieu, tu es déjà une merveilleuse créature. Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, tu es une merveilleuse créature. Si vous avez des complexes, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si des gens ont dit sur vous des paroles négatives, vous en rabaissez. Toi, tu es un chrétien de seconde catégorie. Tu es un pauvre type. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'a jamais recréé un Jésus-Christ de pauvre type. Hello. Donc, il est important de se regarder le matin dans la glace en se disant, dis donc, tu es devenu quelqu'un de bien à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc, relevez la tête ce soir. Pas tant, vous allez vous casser la figure. Il faut relever la tête. Même si les chrétiens marchaient, je parle surtout spirituellement, avaient la tête plus levée, il y a des tas de choses négatives qu'ils ne verraient plus. Vous avez remarqué quelqu'un qui marche comme ça dans la rue, il voit tout. Il voit toutes les saletés, il voit toutes les crottes de chiens. Et il y a des chrétiens, ils voient toujours tout ce qui est négatif. Mais c'est normal, il faut qu'ils relèvent un peu la tête. Quand tu relèves la tête, il y a des tas de choses que tu ne vas plus voir. Les gens vont te dire, « Oh, tu as vu le pasteur là-bas de cette église qu'il a fait ?» Tu vas dire, « Je n'ai pas le temps. » Parce que tu es en train de courir. L'apôtre Paul ne nous parle pas de marcher, il nous parle de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Quand tu cours dans la carrière qui t'est ouverte, tu n'as pas le temps pour t'arrêter à toutes les bêtises. Amen. Tu n'as pas le temps pour critiquer tout le monde. Les gens vont te dire, « Tu as vu lui ?»« Je n'ai pas le temps, je cours. » Les gens qui ont le temps sont les gens qui ne courent pas. Vous avez vu les gars qui s'assoient aux terrasses des bistrots, là, ils regardent passer tous les autres, et ils jugent les gens toute la journée parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais crois-moi, lorsque tu rentres dans le plan parfait de Dieu, Dieu t'occupe suffisamment pour que tu n'aies plus le temps pour toutes ces gamineries. Hello? D'ailleurs, quand tu es dans le plan de Dieu, tu es tellement occupé à faire des choses qui te passionnent qu'il ne reste même plus beaucoup de temps pour le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, les gens donnent l'impression que vaincre le péché, c'est dur. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai lutté contre le péché toute la journée. Vous rencontrez certaines personnes, des fois, ils ont l'air très constipés. Là, vous dites, qu'est-ce qu'il y avait? Je me sentis qui? Non, c'est pas supposé être si dur de se sanctifier. Décompressé. Hello? Efforcez-vous plutôt de comprendre quelles sont les voies de Dieu pour vous. Rentrez dans ses voies. Amen. Soyez occupés aux choses de Dieu. Et quand vous êtes tellement occupés aux choses de Dieu, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le péché. Le diable, il vient et te dit, « Et ça, ça ne t'intéresserait pas ?» Tu dis, « Je n'ai pas le temps. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Quand on est passionné par les choses de Dieu, ce n'est pas dur de bien faire. On a envie de bien faire. C'est comme quand on aime son épouse. Ce n'est pas difficile de résister à l'adultère. On n'a pas envie. Allô? Donc, ce qu'il faut, c'est de ranimer l'amour, peut-être qui manque. C'est de ranimer le feu qui manque. Et ce feu, il va consumer tous les feux follets. Hello? Alors, si Dieu a rattrapé le plan de la création par le plan du salut, il peut nous permettre de rattraper nos plans avortés. La Bible nous dit, faisant allusion à Jésus, que l'agneau de Dieu, on peut dire dans la solution pour tous les problèmes et toutes les souffrances de la création, a été préparé, et là, nous devons reconnaître que c'est quelque chose qui nous dépasse, avant la fondation du monde. 1 Pierre 1:20, il était un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc Jésus a été manifesté en son temps, mais il a été préparé depuis bien longtemps, et avant même la fondation du monde. Et c'est un principe biblique, dans son omniscience, Dieu a préparé des solutions avant même que les problèmes arrivent. Dieu a préparé la solution aux problèmes avant même qu'ils arrivent. Ça nous dépasse parce qu'on n'est pas Dieu, justement. On ne vit pas dans le même temps. Est-ce que vous me suivez? Je veux vous rassurer ce soir. Dieu, il n'a pas perdu les commandes. Même s'il y a des choses qui arrivent qui ne correspondent pas à sa volonté. Peut-être que tu as été engendré d'une manière qui n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a eu des rapports sexuels qui n'auraient pas dû avoir lieu entre des membres de ta famille. Mais Dieu, il rattrape quand même ça. Tu es quand même voulu de lui. Hello? Est-ce que vous voyez la différence? On ne nie pas que certaines choses n'auraient pas dû se faire sous une certaine forme. Mais Dieu, il savait à l'avance ce qui allait arriver, donc il avait déjà prévu la solution. Donc, quel que soit ton passé, tu es voulu de Dieu. Amen? Et quel que soit ce que tu as souffert, ou ce qu'on t'a fait souffrir, ça n'empêchera pas Dieu de te rendre heureux. Il a le pouvoir de le faire. Alléluia. Amen. T'en n'écoute pas la voix du diable qui te dit, toi tu es mal parti. Dieu, il aime rattraper ce qui est mal parti. Amen. Ah, il prend plaisir à ça. Alléluia. Amen. Donc vous lui faites plaisir si vous lui amenez une situation qui est mal partie. Amen. Ça lui fait plaisir. Il aime rattraper ces plans-là. Il aime prouver au diable qu'il n'a pas le dernier mot. Amen. Amen. Il aime élever ce qui a été faible et abaissé. Esther était orpheline. Ça ne l'a pas empêché de devenir reine de Babylone. Amen. Amen. Alors les gens trouvent toutes sortes d'excuses dans leur passé pour... Hey, regarde les personnes que Dieu a élevées dans la Bible, certains. Ils ont fait des couffes. Pas des moindres, d'accord. Et cela a été écrit pour que nous tirions enseignement pour nous-mêmes. Amen. Et que nous n'empêchions pas Dieu d'agir. À cause de notre incrédulité, parce que nous plaçons plus de foi dans notre passé et nos souffrances qu'en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été crucifié, il a dit « Tout est accompli ». Ça veut dire « Ça y est, Père, il a été pourvu pour tout ». Amen. Alléluia. C'est sur cette croix que nous devons avoir nos yeux et sur cette résurrection aussi. Voyez-vous, lorsqu'une personne est confrontée donc, au non-accomplissement du plan divin, elle a tendance à penser qu'il n'y a donc aucun autre plan, ou alors pas de plan aussi bon en remplacement, et encore moins un plan meilleur. Mais c'est compté sans l'omniscience de Dieu, sans le fait qu'il a déjà prévu un plan meilleur à celui qui a échoué. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur ce soir? Ouh, alléluia, Seigneur. Moi, je me fais du bien en prêchant, là. Alléluia, je vous assure que je me fais du bien en prêchant. Ah, je suis en train de faire disparaître toute incrédulité de ma personne. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a été profondément amoureux, il pensera qu'il ne peut retrouver une telle âme sœur. Et tant qu'il le croira, il empêchera Dieu de lui donner quelqu'un d'autre de mieux. Quelqu'un qui est couvert de dettes, qui ne pourra plus prospérer. Quelqu'un qui a vu sa famille exploser, eh bien que les temps à venir seront que souffrance et tristesse. Mais le Seigneur, sachant que cet homme, cette femme par exemple, qui te destinait, dévirait à un moment donné, eh bien il a prévu quelqu'un de bien mieux, que tu pourras aimer bien plus et de qui tu seras aimé bien plus. Donc arrête de t'accrocher aux choses passées. Nous sommes les seuls qui pouvons empêcher Dieu d'agir dans notre vie par notre incrédulité. Et nous allons pousser le bouchon, permettez-moi l'expression, encore un peu plus loin, vous êtes d'accord ? Dieu utilise le problème même comme tremplin pour rebondir. C'est ça le plus fort. C'est que Dieu, il va utiliser la cause même de ta souffrance et de ta déception pour t'aider et pour te bénir. Waouh ! Et on voit parfois certaines personnes qui sont puissantes dans le ministère aujourd'hui, elles sont puissantes à cause des choses qu'elles ont souffertes. Elles ont été abusées lorsqu'elles étaient enfants, elles savent aujourd'hui comment aider les enfants abusés. Amen ? Elles savent ce que c'est qu'être toxicomane et vivre l'enfer de la drogue. Elles peuvent aider aujourd'hui les toxicomanes. C'est pas pour cela que ce qu'elles ont vécu était le plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Mais Dieu est capable de rattraper et d'utiliser toutes choses pour sa gloire lorsque nous adoptons l'attitude d'esprit correcte. La même chose qui devait te stopper devient alors l'occasion de rebondir vers mieux. Et ainsi s'accomplit ce passage de l'Écriture, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt bien. Non pas selon le plan de Dieu, mais concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pas juste de ceux qui disent, oui, je pense que ce qu'il dit le frère ce soir, c'est pas mal, ça peut m'arriver. Non, ceux qui croient, ceux qui aiment Dieu. Et quand on aime Dieu, on croit sa parole. Moi, j'ai du mal à croire que les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu aiment Dieu. Amen. Parce que Dieu et sa parole sont indissociables. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. Si vous voulez aimer Dieu, apprenez à connaître sa parole, et à placer votre foi dans sa parole. Alors là, Dieu, il est impressionné. Il aime les gens de foi. Donc, il y a une loi supérieure à la loi de la mort, c'est celle de la vie. C'est-à-dire que la vie peut sortir de la mort même. Et c'est le principe de résurrection. Est-ce que vous êtes prêts pour une résurrection ? Amen. Qui est prêt pour une résurrection, là ? La réussite peut sortir de l'échec. Le bonheur peut sortir du malheur. La joie peut sortir de la tristesse. L'espérance peut sortir de la détresse. Et comment vous voulez que le diable l'arrête, un chrétien qui croit ce message ? Qui est assez fou pour croire ce que je suis en train de dire ce soir ? Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je suis assez fou pour me croire. Je me connais en plus, je sais que c'est sérieux ce que je dis. C'est ce que veut dire la suite du verset que nous avons cité précédemment, 1 Corinthiens 10, 13, qui nous dit « avec la tentation ». Alors le mot « tentation » et le mot « épreuve » dans le grec, c'est le même. Donc avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset ? Ça veut dire que dans l'épreuve même, dans son omniscience, Dieu a placé une graine qui va te permettre de rebondir à partir de cette épreuve. Est-ce que vous me suivez ? C'est pourquoi le diable veut que nous fuyons nos souffrances. Il veut qu'on fuie toujours notre passé, qu'on fuie tout ce qui nous fait peur, alors que la Bible nous dit « résister à Satan » et il fuira loin de vous. Il veut qu'on fuie, vous savez pourquoi ? Parce que quand vous fuyez une situation, au lieu de la regarder en face, vous ne voyez pas la graine que Dieu il a placée pour vous faire rebondir à partir de cette situation. Est-ce que vous avez compris ? Mais quand vous l'affrontez, ça ne sera pas toujours agréable, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu te dira « regarde-la ». Là, tu es en train de regarder tout le négatif de cette situation, mais regarde cette petite graine positive, cette parole qui va faire en sorte que tu vas rebondir. Amen. Il suffit de quelque chose de petit de la part de Dieu pour détruire de grandes choses qui viennent de la part du diable. Vous avez vu dans Daniel, il est question de cette petite pierre-là. Il y a cette grosse statue imposante, des royaumes qui broient tout sur leur passage. Et puis il y a cette petite pierre. Amen. Et elle détruit la statue. Mettez votre confiance dans la petite pierre. Mais ne fuyez pas ce qui vous fait peur. Ne fuyez pas ce qui vous fait souffrir. Sinon, vous n'allez pas l'avoir, la petite pierre. Amen. Alors les gens, je ne vais pas tarder à terminer. Donc les gens imaginent parfois que leur situation, elle est trop spéciale, elle est trop dramatique, c'est aller trop loin pour qu'elle puisse être changée. Et même que les personnages bibliques avec qui Dieu a travaillé dans le passé étaient des êtres exceptionnels qui n'avaient pas tous ces problèmes qu'on peut avoir. À la rigueur, ils n'auraient même pas regardé sur nos problèmes tellement ils sont misérables. Vous savez, c'est une manière de penser qu'on a parfois. Mais pour reprendre l'expression de Jacques au sujet d'Élie, ils étaient des hommes de la même nature que nous. Avec les mêmes craintes, avec les mêmes combats, avec les mêmes faiblesses. Jacob, il sert 7 ans pour la femme qu'il aime. Et le jour de son mariage, on lui en donne une autre. Ça vous est déjà arrivé? Je ne sais pas. Plus dramatique que ça, c'est difficile. Hein? Parfois, on est là avec nos situations, on dit, s'ils avaient pu connaître ma situation. Mais moi, j'ai rarement rencontré des gens qui ont servi 7 ans pour une femme, alléluia, et le soir, quand ils sont allés pour leur nuit de noces, ils se sont trouvés avec une autre. Si vous connaissez une situation comme ça, écrivez-moi. Je la mets dans ma lettre de nouvelles. Hein. Vous parlez d'une situation foireuse. Il faut qu'il resserve encore 7 ans. Ouh. 7 ans pour semble-t-il... il semblerait que ses premières 7 années, c'était pour rien. Mais tout cela n'a pas empêché Dieu d'en faire le père d'Israël. Les 12 tribus sont même le fruit de ses faux pas de jeunesse, on pourrait dire. Car Dieu a rattrapé le plan. Joseph, il a vu plusieurs des plans mis en place par Dieu pour sa vie se casser la figure. La première fois, lorsqu'il est vendu par ses frères, au lieu de voir s'accomplir la vision qu'il venait de recevoir. Ça vous est jamais arrivé? Vous recevez une vision glorieuse de la part de Dieu, et dans les jours qui suivent, il se produit tout le contraire. Je vois que j'ai affaire à des connaisseurs ce soir. Et ensuite, lorsqu'il sort de prison, il devient le gérant de la maison de Potiphar pour mieux retourner en prison. Ça vous est jamais arrivé, ça aussi, de dire, ça y est, Dieu a agi dans ma vie. Alors vous témoignez sur l'estrade, n'est-ce pas? Vous dites à tout le monde ce que Dieu a fait dans votre vie. Le mois d'après, il vous trouve dans une situation où vous avez tout perdu. Vous n'osez pas les croiser dans la rue. Il y a des connaisseurs aussi. Donc, continue. Mais Dieu, il fait rebondir Joseph à partir de chaque épreuve. Et d'ailleurs, à force de rebondir, Joseph arrive au plus haut rang. Qu'est-ce qui se passe quand on rebondit? On rebondit de plus en plus? Oh! Mais entre chaque fois, on redescend. C'est pas agréable de redescendre. Alors tu es peut-être dans un creux là en ce moment, mais ne perds pas la vision. Tu vas encore rebondir et tu vas rebondir plus haut. Qui est venu pour entendre ce message ce soir? Dieu veut te faire rebondir à partir d'où tu te trouves aujourd'hui. Et je le répète, en utilisant le fait même que le diable t'a stoppé dans ta course, ou t'a frappé, ou t'a blessé, ou t'a humilié. Et cet enseignement, il n'est pas pour nier qu'il y a un temps pour crier, il y a un temps pour pleurer, pour faire un deuil, comme l'a fait Joseph. Nous sommes bien d'accord? Il est important de faire son deuil d'une situation. Parfois, certains chrétiens tombent dans l'autre extrême. Alléluia, tout va bien! Un ami faisait un enterrement, il était là, sa prédication, c'est Dieu, Alléluia, il est avec le Seigneur, gloire à Dieu, c'est bon. Non, les gens sont dans la tristesse. Il faut être dans la tristesse avec eux. La Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a des chrétiens, ils sont toujours à contre-courant. Quand c'est le moment de jeûner, ils veulent manger. Quand c'est le moment de manger, ils veulent jeûner. Quand c'est le moment de louer, ils veulent faire la tête. Vous avez remarqué, il y a des gens toujours à contre-courant. Et en plus, l'Éternel m'a dit. Seigneur a bon dos, vous savez, pour beaucoup de choses. Hein. Ce qui a permis à Joseph de rebondir, et donc à Dieu d'accomplir son plan, c'est aussi qu'il n'a pas accepté de demeurer dans l'apitoiement. Hello? La confusion, l'amertume, la tristesse, la rancune. Il a accepté de relever la tête. Et vous vous rendez compte? De pardonner à ceux-mêmes qui l'ont vendu. Ouh là là! Il a été tenté quand même jusqu'au dernier moment. Hein. Je ne sais pas comment on aurait agi chacun de nous. Tous les gens qui viennent vous dire, moi j'ai trop souffert, moi. Joseph, vendu par ses frères. Mais Joseph, il avait un être intérieur fort. Amen. Samson, il avait un être extérieur fort, mais un être intérieur faible. Il suffisait qu'une femme lui fasse du charme, ah, pour qu'il perde sa volonté. Tandis que Joseph, même devant une femme, il est parti en courant, il a laissé son habit. Son être intérieur était fort. Alors, il y a des gens, peut-être au milieu de nous, permettez-moi l'expression, qui ne payent pas de mine, mais ils ont l'être extérieur fort. Amen. Il y a d'autres, on dirait, des supraspirituels. Dès qu'il arrive la moindre épreuve, on ne les voit plus. Donc, ce qui importe, c'est votre être intérieur. Ce n'est pas d'impressionner tout le monde. Ce Samson qui avait reçu un merveilleux appel et une merveilleuse onction sur sa vie. Regardez, lui, il était bien parti. Il était parti avec l'onction. Il y en a d'autres, ils reçoivent l'onction pour le ministère en cours de route. Ils doivent peiner pour ça. Lui, il n'a rien eu à faire. Hein? Donc, on peut bien partir, ça ne va pas nous permettre de bien arriver. Mais on peut mal partir et bien arriver. Et ce qui importe, c'est l'arrivée. Ce n'est pas de se comparer. Oh, lui, il a été loin de ça. Moi, je n'ai pas été loin. La Bible dit, ne vous comparez pas les uns aux autres. Et ne soyons pas jaloux les uns des autres. Soyons heureux pour celui qui est béni. Soyons heureux pour celui qui est loin. Amen. Oh, il se marie. Moi, je ne suis toujours pas marié. Sois heureux pour celui qui se marie. C'est la meilleure façon pour que Dieu te donne un conjoint. Ce Samson, pour moi, c'est le caractère biblique le plus expert en foirage de plans divins. C'est un spécialiste, lui. À force de jouer avec le feu, parce qu'il le cherche quand même, hein. Vous trouvez beaucoup de chrétiens comme ça, vous savez. Ils, sous prétexte qu'ils ne commettent pas l'impudicité, ils vont jusqu'à la limite, vous savez. Oh, mais je ne veux pas coucher avec elle. Mais un jour, ils finissent par chuter. Trop sûr d'eux. À force de faire de mauvais choix, il a fini dans l'opposé du plan de Dieu pour lui. Dans l'opposé de sa destinée. Donc le plan de Dieu pour moi ne s'accomplit pas automatiquement parce que j'ai été loin. Mais même là, ouh, qu'il est positif ce message ce soir. Ah, je m'encourage, hein. La Bible dit de s'encourager soi-même, de parler à son âme. C'est ça, méditer, parle à toi-même, alléluia. Même là, dans ce cas extrême, lorsqu'il a crié à Dieu, le Seigneur lui a permis de terminer sa vie en détruisant plus d'ennemis, nous dit l'Écriture, qu'il n'en avait tué au cours de son existence. Parce que son onction, c'était d'être un guerrier, lui. Et on peut dire que c'est l'humiliation même par laquelle les Philistins ont décidé de le faire passer qui a été le support pour leur propre destruction. Puisqu'ils l'ont attaché au pilier qui soutenait tout le bâtiment où les Philistins se trouvaient pour se moquer de lui. Ce pilier, c'est un instrument de destruction pour lui, un instrument d'humiliation, et c'est devenu l'instrument de sa victoire. Peut-être qu'en ce moment, tu t'es retrouvé attaché à un pilier particulier et tu veux tout faire pour fuir ce pilier. Mais peut-être Dieu veut que tu t'arrêtes un moment, que tu retrouves d'abord ta paix, ta confiance à côté du pilier. Il ne va pas te tomber dessus, ça va. Amen. Et après, Dieu va te montrer comment utiliser le pilier même. Ton humiliation pour glorifier son nom et détruire tes adversaires. Hello? Élie, il ne savait pas au moment où il était dans la dépression, dans le désert, qu'il était à la veille de sa plus grande expérience spirituelle, être enlevé dans un char de feu. Il devait entendre le diable qui lui dit, « Eh, c'est toi, l'Élie qui a égorgé 450 ou je ne sais pas combien, prophètes de Baal, c'est toi, là tu es en pleine dépression, regarde-toi. Tu crois que tu as un avenir? Tu crois que tu vas retrouver ce niveau d'onction que tu as eu un jour? Eh bien oui. Encore mieux, enlevé dans un char de feu. Qui a déjà été enlevé dans un char de feu ici? Pas encore, hein? Ça va pas tarder, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que dans son sentiment, dans sa position de dépressif dans le désert, il était loin d'imaginer qu'il, qu'il allait vivre une telle expérience. Il devait plutôt avoir l'impression que Dieu, fou, il avait rayé des expériences spirituelles particulières à faire. Qui pourrait juste rentrer au ciel au dernier moment par la porte de la cuisine derrière. David a été un homme qui a recherché depuis le début à être dans le plan de Dieu. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et Saül a fait basculer ce premier plan en étant jaloux de lui. D'homme élevé et respecté, David est devenu un fuyard. Là aussi, comme pour Joseph, le plan a commencé à marcher. David est devenu chef de l'armée. Et puis d'un coup, il se retrouve à fuir. Pourquoi ? Parce que, vous savez pourquoi ? Il se peut fort qu'il se soit habitué à cette position. Et quand on s'habitue à certaines positions, parfois, on perd le désir de chercher plus loin. Mais Dieu, il ne voulait pas qu'il soit juste chef de l'armée. Il voulait qu'il devienne un roi. Donc, il fallait d'abord qu'il perde cette position dans laquelle il était glorifié. On disait, David l'a tué plus que Saül. Et Dieu, il a permis ça. Mais pas pour humilier David, pour que David puisse rebondir encore plus haut. Et lorsqu'il a chuté par la suite, ce n'était plus la faute de Saül, mais là encore, Dieu l'a relevé. Et lui a fait l'honneur de devenir une image et un père de la lignée du Messie. Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Il nous adresse cette parole, quelle que soit notre situation. Il n'attend pas qu'on soit sorti des situations complexes pour nous adresser cette parole. Et d'ailleurs, elle n'a de valeur à être reçue avec la foi que quand on est dans une situation complexe. Parce que tout le monde sait avoir la foi pour les finances quand leurs comptes en banque sont remplis. Tout le monde sait avoir la foi pour la guérison quand ils ne sont pas malades. Tout le monde sait avoir la foi pour un avenir et une espérance lorsque leur présent est rempli d'avenir et d'espérance. Hello? Et ce qui donne sa valeur à la foi, c'est que le présent ne correspond pas du tout à ce que doit être le futur. Et c'est la vue dans le futur. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment que tous ceux qui en ont particulièrement besoin, c'est-à-dire ceux qui sont venus ce soir et qui se rendent compte que c'est un rendez-vous de Dieu, pour entendre une parole particulière qui va leur permettre de rebondir. Je voudrais que vous vous saisissiez de cette parole comme... puissant instrument de Dieu qui ne va pas agir dans 6 mois ou dans 10 ans, qui va transformer les choses déjà à partir de ce week-end, dans les jours qui suivent. Dis seulement une parole, quelqu'un a dit à Jésus, et je serai guéri. On a entendu plus qu'une parole ce soir, hein? Alléluia. Saisissons-nous de cette parole ce soir. On ne va pas avoir d'appel particulier, on aura l'occasion d'imposer les mains aux gens, faire l'onction d'huile, de prier pour des situations particulières. Mais là, je voudrais que sur votre chaise, vous libériez votre foi. Peut-être simplement en vous mettant debout, si vous sentez vraiment concerné par cette parole. Vous sentez que c'était un rendez-vous de Dieu. Peut-être vous faites juste cet acte simple de vous mettre debout. C'est important d'avoir un acte qui accompagne notre parole. Alléluia. Moi, je suis persuadé que quand je demande aux gens de faire un tel acte, aussi simple soit-il, les gens qui ne le font pas passent à côté de leur bénédiction. Je vais me dire pourquoi. Mais parce que, dans cet instant, la parole d'un serviteur de Dieu, elle doit être respectée. Elle doit être reçue, avec même le signe qui va avec. Voilà. Vous êtes là devant Dieu chacun, vous vous saisissez de cette parole, d'accord? Elle est pour vous personnellement, parce que Dieu vous aime. Vous pouvez même imaginer combien il vous aime. Alors qu'on était encore pécheurs, il a donné la vie de son Fils unique. Alors maintenant que nous avons appris à le connaître, ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. Alléluia. Nous saisissons cette parole. Dites-vous chacun, elle est pour moi. Pour moi personnellement. Elle est pour moi personnellement. Je reçois avec cette parole sous le bras. Là. Elle est à moi. Elle a été annoncée à toute l'assemblée, mais elle est pour moi. Si personne d'autre ne la reçoit, moi je la reçois. Et elle va produire un fruit et ne pas retourner au Seigneur sans avoir produit des faits. Je prophétise ce soir ce qui a déjà été dit en introduction. Que des situations qui sont coincées depuis des années se décoincent à travers ce message dans le monde spirituel. Nous brisons au nom de Jésus-Christ le pouvoir de Satan sur plusieurs vies. Ce pouvoir pour bloquer, ce pouvoir pour freiner. Nous libérons la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, nous libérons encore.